Ensemble, ici, Radio Livre, la radio des initiatives.
Bonjour à toutes et à tous, ici Théo pour Ensemble ici et Radio Livre, Aymeric à la technique. Et nous sommes aujourd'hui, vendredi 8 avril, 16h, à la médiathèque de Nyons, en compagnie de Lucas et Gitanjali de l'association Mare Nostrum. Donc, bonjour Lucas.
Bonjour.
Et bonjour Gitanjali.
Bonjour Théo.
Nous sommes aussi en présence d'un public que nous invitons vivement à participer tout au long de l'émission. Pour cela, il suffit donc de lever la main et je vous transmets le micro pour échanger avec nos deux invités. Mais d'abord, donc, pour rappel, Mare Nostrum, c'est une association de promotion des cultures méditerranéennes que vous avez vous-même créée, Lucas et Gitanjali, et pour laquelle vous êtes partis en novembre 2014, durant 7 mois, à la découverte des cultures et des musiques traditionnelles de plusieurs pays méditerranéens. Et tout cela en lien avec les écoles de là-bas et d'ici. Donc après le Maroc, la Croatie et l'Albanie, vous nous emmenez aujourd'hui voyager en Grèce et en Turquie, des pays dont on entend beaucoup parler en ce moment, pour différentes raisons. Et donc ce sera pour une 4e et dernière émission, puisque ces deux pays marquent aussi la fin de votre périple qui a duré 7 mois. Donc nous étions la dernière fois en Albanie, un pays que vous quittez donc pour la Grèce, mais pas complètement, puisque vous arrivez d'abord dans la ville de Ioannina, qui est partagée entre ces deux pays.
Alors, qui a été tantôt dans l'un, tantôt dans l'autre, surtout pendant l'Empire ottoman, avec les divisions administratives, c'est vrai que cette région-là, qui s'appelle l'Épire, fait tantôt partie de l'Albanie, tantôt de la Grèce. Donc on arrive voilà, par le nord de la Grèce, par l'Albanie, dans la ville de Ioannina. Et on n'a que peu de temps à passer en Grèce, en fait. On y passe à peu près 15 jours parce qu'on essaie de filer vite vers la Turquie. Et on a en tête de rencontrer une musique qui s'appelle le rebetiko. Et donc là, on a beaucoup de chance quand on arrive à Ioannina parce que Gitanjali a contacté via le site Couchsurfer un jeune grec parce qu'elle avait vu dans ses commentaires qu'il avait tendance à inviter ses invités à aller rencontrer des groupes de rebetiko parce qu'un de ses bons amis était un de ces fameux rebets.
Alors, sur notre arrivée à Ioannina, donc on arrive après avoir fait 3 bonnes heures de route vers l'intérieur des terres, donc on n'est plus du tout sur la côte. Et bon, on ne comprend pas trop, l'ambiance est un peu chaude, c'est un peu le bazar. Il y a des grandes affiches partout, écrites en grec, des signes anarchistes. Bon, ça a l'air d'être un peu compliqué. Et donc, on essaye de se garer, on finit par trouver une place. On appelle la personne qui doit nous accueillir là-bas, donc Stratos, et il vient nous chercher. Donc, on fait un petit tour, on finit par se garer, on voit que c'est payant, on lui demande est-ce qu'on y aurait pas des parkings gratuits. Et il va nous dire « Oh, mais vous en faites pas, à Ioannina, depuis 2 ans, il n'y a plus de police, il n'y a plus de service public. » Donc, on arrive déjà dans la ville, c'est un peu problématique. Enfin, on va en reparler un petit peu plus tard. Donc, on arrive à Ioannina, chez Stratos, et il nous emmène pour la soirée dans un petit bar où on va faire la connaissance d'un de ses amis qui est un rebet, donc un joueur de rebetiko. Donc le premier soir est plutôt sympa, on est juste tous les quatre, on grignote des plats grecs.
On boit beaucoup de tipourou.
Et on rentre un peu fatigué, un peu tard de cette soirée.
Et mais pas de musique.
Pas de musique, oui.
Pas de musique pour ce soir-là et on est un peu désolé. Et Lampros, qui est l'ami de Stratos, qui nous accueille donc, est désolé pour nous lui aussi. Et le lendemain, on a un appel de Lampros qui nous dit bah, « Venez ce soir, j'ai convoqué mes amis ». Et en fait, on se retrouve dans une petite taverne entourée de manches de guitare, de bouzouki, de baglama pardon, et autres ouds. Et en fait, on a un concert privé, rien que pour nous. Une chance assez extraordinaire.
On fait écouter tout de suite un extrait de cette musique.
Thank you. J'ai une question sur le mot rebetiko. Est-ce que ça a une signification grecque?
Alors, je crois que c'est sujet à bien des discussions, parce qu'ils ne savent pas exactement quelle est l'origine de ce mot, mais certains de ce groupe nous ont dit que ça pouvait signifier le mauvais garçon ou le rebelle.
D'accord. Et là, on voit que des... Enfin, sur les images, là, on voit que des...
Des hommes. Alors, il y avait une femme. Je ne sais pas si on l'a vue sur l'image. Il y a effectivement une femme. Alors, en fait, l'origine du rebetiko, elle remonte à la fin du 19e siècle, du 20e siècle.
Non, 19e siècle. Fin du 19e, début 20e, ouais. L'origine.
Comme ça, tout le monde est d'accord.
Et alors... On dit que la musique du rebetiko vient d'origine mélangée entre des musiciens d'Asie mineure et des musiciens qui viendraient plutôt des îles grecques. Alors, en 1900 et des poussières, au moment où l'Empire ottoman perd la Première Guerre mondiale, le territoire va être déchiré par le traité de Sèvres notamment, où finalement l'Empire ottoman est déchiré et partagé entre les puissances occidentales et aussi les puissances locales qui veulent récupérer des morceaux de territoire. Et à ce moment-là, la Turquie rentre en guerre d'indépendance et notamment contre la Grèce. Ils vont suivre 2-3 années de conflit vraiment très difficile, qui va être appelé en Grèce la Grande Catastrophe et qui va se conclure par le traité de Lausanne, qui va décider des échanges de population entre les orthodoxes et les musulmans. Et donc à ce moment-là, il y a 1 million d'orthodoxes qui vivaient dans l'Empire ottoman qui vont retourner en Grèce, qui fait 5 millions d'habitants, donc 1/6 de la population. De l'autre côté, il y a 400 musulmans qui retournent en Grèce. Je vous laisse imaginer l'état de la Grèce à ce moment-là, l'accueil très difficile de ces migrants qui vont vivre dans les ports, notamment du Pirée et de Thessalonique, et qui vont créer cette musique avec un exode rural aussi massif qui vit, des populations grecques, des îles grecques notamment. Et toutes ces populations se mélangent, leurs styles musicaux, leur culture se mélange pour créer le rebetiko. Et donc, pour revenir à la question des femmes, dans les différents mouvements du rebetiko, il y a des femmes qui sont présentes, mais surtout dans le style de Smyrne. Donc Smyrne, c'est l'ancien port d'Izmir qu'on connaît sous le nom d'Izmir en Turquie. Donc dans cette tradition musicale il va y avoir des femmes, sauf que petit à petit le rebetiko glisse et devient un peu une musique qui représente les rebelles, donc d'où le mot rebelle tout à l'heure on en parlait, et de cet univers là sont un peu exclues les femmes, mais plus tard les femmes reviennent.
Les rebelles chantent beaucoup aussi l'amour de la drogue, parce que c'était quelque chose une musique qui se développait beaucoup dans les milieux interlopes et beaucoup dans ce qu'on appelait les tekés, qui étaient les fumeries en fait. Et évoque aussi beaucoup l'univers carcéral, puisque c'était des personnes qui étaient mises au banc de la société et qui étaient souvent emprisonnées. Vu qu'ils étaient originaires, pour la plupart, après la grande catastrophe de Turquie, en fait, ils étaient très mal considérés par les Grecs de Grèce, qui voyaient là des pseudo-turcs, des pseudo-grecs. Et donc c'est vrai que c'était vraiment une sous-culture d'un sous-prolétariat. Et c'était aussi des rebelles qui se sont rebellés pendant les différentes dictatures que la Grèce a traversées, notamment celle de Métaxas. Ensuite, le rebetiko est devenu quelque chose de plus populaire, c'est ouvert, et l'industrie du disque s'en est complètement emparée et a complètement formaté cette musique-là.
Donc aujourd'hui, quelle image pour le rebetiko, du coup, et qui la pratique ?
Aujourd'hui, ce sont les jeunes surtout qui la pratiquent, mais on a discuté seulement avec eux, donc on n'a pas beaucoup de recul par rapport à ça, mais quand on leur demandait si c'était une musique vivante et s'il y avait un nouveau corpus de chansons, ils nous disaient que non, c'était fixé, c'était une musique qui était figée, mais qu'elle avait exactement les mêmes significations aujourd'hui qu'alors, surtout en regard de la crise que traverse la Grèce. Et donc pour eux, c'était une musique qui était vivante, même si elle était figée.
C'est vrai que ça reparlait pour eux des mêmes considérations, de la difficulté de la vie de tous les jours, des difficultés sociales, face au gouvernement aussi. Et du coup, on a pu voir que c'était pas facile pour eux tous les jours. C'est vrai qu'on, c'est peut-être un des rares échanges qu'on a eu avec des jeunes Grecs, mais ils nous disaient que c'était pas facile la vie en Grèce en ce moment, qu'ils travaillaient non-stop, 7 jours sur 7, 24, 12 heures par jour, et que c'était un peu leur seul moment finalement de plaisir de se retrouver tous ensemble pour jouer cette musique.
À travers la crise grecque donc, et les revendications qui ont été portées, est-ce que cette musique ou est-ce qu'il y avait d'autres types de musique qui ressortaient finalement de la mobilisation récente et actuelle qu'il peut y avoir en Grèce ? Est-ce que le Rebetiko en faisait partie ?
On n'est pas resté suffisamment longtemps pour pouvoir avoir cette approche-là et vérifier des choses comme ça, malheureusement. Je vais juste finir sur le Rebetiko en parlant un petit peu des instruments. Donc l'instrument phare du Rebetiko, c'est le bouzouki. Il y a aussi un autre instrument qui est en fait la version miniature du bouzouki qui s'appelle le baglama et qui est un instrument intéressant parce qu'il était beaucoup utilisé par les rebets pour sa petite taille et qui leur permettait en fait de s'enfuir sans être gênés quand il y avait des rafles, des descentes policières dans les tékés, qui leur permettaient de s'enfuir sans être gênés par la taille de l'instrument.
Alors, après cette soirée, finalement, on a dû filer assez rapidement puisqu'on devait rejoindre notre objectif turc. Et on est descendu petit à petit jusqu'à la ville de Thessalonique puisque un des rebets qui était là connaissait un fabricant de bouzouki à Thessalonique. Donc là-bas, on a eu la chance d'être accueillis par Artemis, une jeune grecque, et elle a été avec nous jusqu'à l'atelier de ce fabricant. C'était vraiment un atelier qui était vraiment, vraiment très joli. En fait, on a appris que c'était un très grand fabricant de bouzouki qui fournissait beaucoup d'artistes. Et justement, de passage dans l'atelier, il y avait un des artistes qui était présent. Et on a eu la chance, du coup, d'avoir un petit extrait de sa musique qu'on vous fait écouter tout de suite.
qu'on vient d'entendre un joueur assez, enfin un très bon joueur,
un virtuose du bouzouki.
Du bouzouki.
Qui s'appelait Georgos Georgopoulos et qui nous interprétait une mélodie du compositeur grec Mikis Theodorakis, qui est notamment connu pour avoir écrit la musique de Zorba le Grec.
Donc là, on est toujours à Thessaloniki. Vous vous dirigez en direction de la Turquie. Vous repartez, donc après avoir rencontré ce musicien, vous repartez directement
On repart directement et on va faire un petit break, parce qu'on est un peu fatigué. Et donc on va prendre quelques jours de repos sur la côte, dans une petite ville qui s'appelle Nea Roda, et qui se trouve à côté du mont Athos. Alors deux mots sur le mont Athos, parce que c'est un peu particulier. Le mont Athos, c'est une montagne qui est donc sur cette espèce de pas de doigt géographique qui s'appelle les Chalcidiques. Et ce mont Athos, c'est une république monastique autonome, c'est-à-dire que c'est un territoire qui est séparé du territoire grec, il y a une frontière et en fait, il faut faire une demande de visa pour s'y rendre. Et ne sont admis sur ce bout de Grèce que les individus mâles. Et ça ne s'arrête pas qu'aux êtres humains, mais toutes femelles sont interdites, à part les chattes et les poules.
Donc un endroit en voie de perdition.
En tout cas, ça va perdurer ce système-là, vu que l'Église orthodoxe a quand même un poids politique et économique très très important. C'est notamment des gros propriétaires fonciers en Grèce.
Du coup, en parlant de religion, comme dans tout le voyage, on a pu remarquer une nouvelle fois que la religion était très présente dans les pays qu'on visitait et où on voyageait. Et pour la Grèce, c'est la même chose. Depuis le début du voyage, on voit beaucoup de gens qui se rendent à l'église, et notamment à cette période, puisque en fait, on arrive au moment de la Pâque orthodoxe. Et donc, la Pâque orthodoxe, c'est la fête la plus importante pour les orthodoxes, devant Noël, bien largement, qui est chez nous, en tout cas dans les pays catholiques, la fête la plus importante. Et donc, on va pouvoir profiter de ce moment qui est quand même extraordinaire. Où toute la Grèce est en vacances, c'est les fêtes, et toute la semaine on va célébrer la Pâque. Alors c'est en fait la célébration qui débute au moment où on va juger le Christ jusqu'à sa résurrection, qui a lieu en fin de semaine. Donc pour chaque jour sa célébration, et notamment une qui est très importante, c'est le vendredi soir. Comme vous pouvez le voir sur la photo, où on suit le tombeau du Christ, puisqu'il est dans son cercueil, et on va le suivre jusqu'à l'église. On fait tout un tour du village.
En passant par le cimetière.
Ensuite, le samedi, c'est la résurrection. Et une nouvelle procession dans les villages où on se retrouve devant l'église à la fin. Et là, c'est une petite tradition grecque. Pendant la semaine, on fait cuire des œufs qu'on baigne dans de la coloration du jus de betterave. On a des œufs rouges donc, qui représentent la couleur du sang du Christ. Et à la fin de la semaine, au moment de la résurrection, chacun a son petit œuf et doit frapper dans l'œuf de son voisin. Et celui qui casse le plus d'œufs sans que le sien soit cassé aura de la chance toute l'année. Alors, dans certains villages, on a pu voir ça. En fait, il y avait la procession officielle qui faisait le tour du village. Et à un autre moment, on a vu la procession séparée en deux, arriver devant un grand bûcher et mettre le feu à un personnage. Et donc, on n'est pas sûr de savoir si c'était Judas, puisque certaines petites îles grecques brûlent Judas. Et on n'est pas sûr si ce serait peut-être sinon une tradition païenne. Là-dessus, on n'a pas eu de confirmation, mais en tout cas, il se passait ça aussi. Et pour finir, le dimanche, c'est le repos et on fait griller l'agneau. Donc partout dans le village, il y avait des agneaux qui brûlaient, qui grillaient. Et voilà, il y a des réunions de famille assez sympathiques.
Ce qui est amusant, c'est que lorsque on a accompagné le corps du Christ jusqu'au cimetière et qu'une partie de la procession s'est scindée pour aller allumer le bûcher, la procession qui est allée, enfin la moitié de la procession qui est allée vers le cimetière a complètement ignoré le bûcher. Et les prêtres n'ont pas jeté un seul regard à ce qui se passait à côté, comme si c'était deux choses complètement séparées et auxquelles ils ne voulaient pas prendre part l'un l'autre. Et maintenant, on peut écouter un petit extrait musical pour illustrer tout ça.
Ah oui, parce que forcément, ils chantent pendant la procession.
Kyrie eleison, Kyrie eleison. Απόργης, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάδακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών του αποστρέψε και διασκεδάσε, πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς, εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
Petite question qui nous vient du public. Quelqu'un aurait aimé savoir si la Pâque orthodoxe avait lieu au même moment que la Pâque chrétienne.
Alors, je suis plus sûre, je me rappelle plus, mais je crois qu'il y avait une semaine de décalage. Par rapport à quoi, je me rappelle pas vraiment. Faudrait regarder, mais effectivement, je crois que c'est pas exactement le même moment. Et je crois que ça dépendait aussi des différentes parties de l'orthodoxie, parce qu'il y avait à ce moment-là, à Néaroda où on était, il y avait des Bulgares, et pour eux, c'était aussi décalé. Donc, a priori, c'est pas au même moment. Et c'est du coup, d'après ce que j'ai lu, quelques jours après. Je ne sais plus quelle lune, mais enfin, ça se décale, ça se décale tous les ans. Voilà. Très bien.
Donc, on vient donc d'écouter là, les chants de procession auxquels vous avez assisté, dans un endroit où finalement l'Église a aussi un poids assez important, tant sur le plan politique qu'économique. Ça, c'est valable dans toute la Grèce ou...
D'après ce qu'on a pu observer, oui, c'était très courant de se promener dans la rue et de voir des prêtres, par exemple. Donc, ils sont vraiment très présents dans la vie de tous les jours. Il y a des églises partout aussi.
Du coup, on quitte Néaroda et ça y est, on arrive en Turquie. On fait pas mal de kilomètres et on arrive à Istanbul.
Et avant d'arriver à Istanbul, du coup, vous traversez une frontière entre deux États, mais aussi une frontière européenne, finalement, qui est apparemment assez lourdement gardée.
Oui,
ouais, c'est peut-être la frontière la plus difficile à passer qu'on ait vue. Parce qu'effectivement, des deux côtés, c'était lourdement armé. Donc les politiques grecques et turques ont une tendance à ne pas trop s'aimer, en général. Les Grecs ont souvent tendance à dire que telle spécificité de la culture grecque qu'ils partagent avec la Turquie vient de eux en priorité, et les Turcs inversement. Mais souvent, les Grecs et les Turcs finissent par dire « au final, on est tous les mêmes ».
Ils ont le café grec et le café turc, c'est la même chose. Ou les baklava, ça vient de Grèce. Ou de Turquie, ou le halva, ça vient de... Et du coup, c'est assez rigolo. Et finalement, quand on parle avec... on a parlé avec plein de jeunes qui nous disaient « Ah, mais en fait, quand je vais en Turquie, j'ai l'impression d'aller chez moi. Ou quand je vais en Grèce, j'ai l'impression d'aller chez moi. » Et le fait qu'ils étaient brassés pendant des centaines d'années dans le même environnement fait que en fait, les cultures sont vraiment très proches.
Il y a des passages quand même assez réguliers entre la Grèce et la Turquie, que ce soit sur le plan touristique ou... Les gens passent facilement d'un pays à l'autre.
Je sais pas. La Grecque qui nous avait hébergé à Thessalonique, par exemple, était partie faire un Erasmus en Turquie. Donc j'imagine que oui, les liens sont quand même assez faciles entre les deux pays.
Okay. Après, peut-être pas tout le pays, peut-être plus avec Istanbul, qui est sur le, qui a une rive sur le continent européen. Donc c'est plus facile.
Très bien. Vous arrivez donc à Istanbul, tout de suite ou...
On arrive à Istanbul tout de suite et on reste encore 10 jours sur le continent européen avant de passer sur le continent asiatique. L'occasion de visiter un petit peu cette ville gigantesque qui fait 14 millions d'habitants et qui est très étendue. On est un peu fatigué à ce moment-là et faire du tourisme, bon, c'est pas trop notre truc, surtout qu'on a vécu 6 mois de rencontres humaines très, très fortes. Donc on fait un peu de tourisme quand même parce qu'on y est, donc il faut en profiter, mais c'est un peu malgré nous. En plus, on est accueillis à Istanbul par des Français qui habitent là depuis un bon moment, mais donc on ne débarque pas complètement dans la culture turque, mais c'est quand même intéressant d'avoir leurs différents points de vue, notamment sur les questions de politique. On arrive à un moment un peu particulier, puisque vont avoir lieu bientôt des élections législatives qui sont un enjeu important, puisque si le président actuel, Erdogan, obtient la majorité, il pourra alors changer la constitution et mettre en place un régime présidentiel qui confortera sa position. Donc on arrive dans cette ambiance-là. Et quand on discute un petit peu avec nos hôtes, ils nous apprennent qu'ils ont bien vu quand même sur la longueur que les actions d'Erdogan ne sont vraiment pas anodines dans la vie de tous les jours, et que c'est effectivement un président qui assoit son pouvoir et qui mène le pays vers une dérive plutôt autoritaire et axé sur un regain de pratiques et d'observance des lois religieuses.
Donc une actualité politique assez très présente du coup quand vous arrivez, d'autant plus que vous arrivez aussi au moment de la commémoration du génocide arménien.
Effectivement. Alors on a très peu finalement pu en parler. On a parlé avec ce couple de Français qui donc habitait la Turquie depuis une trentaine d'années. Et c'est vrai que c'est tout un débat parce que, étant Français et détaché par la France, il y a une cérémonie quand on y est. Et c'est toute une question de savoir s'ils vont y aller ou pas. Donc, dans le corps diplomatique français détaché, qui va à la cérémonie, qui n'y va pas, parce que la Turquie ne reconnaît pas le génocide arménien. Du coup, on va pouvoir en discuter. Et ce que vont nous dire nos hôtes, c'est un peu une version complètement, c'est une version complètement différente en fait de ce qu'on a l'habitude d'entendre ici, et auquel voilà, j'ai pas pris de position puisque je me suis pas documentée plus que ça, mais en fait. Ils nous ont dit que du côté turc comme du côté arménien, les archives de guerre, donc qui datent donc du moment de la guerre d'indépendance de la Turquie, dont je vous parlais tout à l'heure, les archives du côté turc comme du côté arménien n'ont pas été ouvertes. Et donc, pour eux, il n'y a aucune preuve historique, aucun document qui fait que on peut savoir la réalité de la situation.
En fait, la Turquie récuse le fait qu'on considère cela comme un génocide, c'est-à-dire qu'elle estime qu'il n'y a pas eu de mise en place systématique d'élimination des Arméniens, mais qu'au contraire, il y a eu un conflit armé, des belligérants, qui se sont affrontés et qu'il y a eu des morts dans ce cadre-là. Ils estiment aussi qu'il y a eu des fautes de la part des généraux et de l'armée turque. Mais ça, c'est aussi une position qui est assez nouvelle. Erdogan, il me semble qu'il a annoncé des excuses publiques envers la communauté arménienne. Mais voilà, il refuse de dire que l'État turc de ce moment-là avait mis en place un génocide.
Alors finalement, donc on passe ces quelques jours à quand même découvrir un peu Istanbul, se promener dans les quartiers, essayer de trouver les endroits pas trop touristiques. Finalement, c'est une super grande ville où il y a aussi beaucoup, beaucoup de vie et pas que des touristes. Donc c'est quand même super intéressant. Et on a aussi la chance du fait que nos hôtes louent une partie de leur maison à un Turc qui est étudiant en musique. Et il va nous donner le contact d'un de ses amis qui travaille au conservatoire. Et donc là, on a un petit aperçu de la musique turque. Donc on vous fait écouter un petit morceau. Thank you.
premier extrait musical donc en Turquie. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter ?
Alors, quand on était au conservatoire, on a pu rencontrer divers élèves qui nous ont joué pas mal d'instruments différents qu'on pouvait retrouver dans la musique turque ou dans la musique du monde ottoman en général. Et au moment de repartir, un professeur qui avait eu vent de notre présence nous a attrapés, nous a attirés dans son bureau parce qu'il avait trop envie de nous montrer sa création, la guitare microtonale. Donc, qui est une guitare classique, en fait, où on peut interchanger les frettes pour faire entendre un son qu'on n'entend pas dans la musique occidentale et qui est le quart de ton. Sachant que dans la musique occidentale, l'écart de note le plus petit est le demi-ton. Donc là, quand on n'est pas habitué à entendre ce genre de musique, on a l'impression que c'est un peu faux. Et en fait, c'est quelque chose qui est complètement admis dans les musiques, dans beaucoup de musiques de par le monde, dont les musiques orientales. Et donc, il avait adapté une mélodie qui est d'habitude jouée au saz, qui est un instrument turc, qu'on entendra plus tard.
Très bien.
Alors, on quitte Istanbul après, c'est quand même cette grosse semaine qu'on passe là-bas. Parce qu'il faut qu'on aille à Ankara, donc 500 km plus loin, on s'enfonce dans la Turquie des plaines, les grandes plaines anatoliennes désertiques. On y était au printemps, il n'y avait pas beaucoup de végétation et l'été ça doit être encore pire. Et tout d'un coup se dresse au milieu de nulle part une ville assez énorme quand même, puisqu'Ankara est la capitale de la Turquie, mais qui reste beaucoup plus petite qu'Istanbul. Alors, pourquoi cette ville là au milieu de nulle part ? C'est que en fait, au moment où Atatürk, Mustafa Kemal, le fondateur de la Turquie indépendante, crée la Turquie, il crée aussi la capitale au milieu du pays. Et donc voilà, on arrive à Ankara parce qu'on a une école partenaire là-bas avec qui on va travailler une semaine. Et on est accueillis dans une famille tout à fait sympathique chez les Bali, donc avec Taylan Bali, Gaye Bali et Aymila, leur petite fille, qui nous font découvrir ces deux premiers jours la ville d'Ankara. Donc là, vous avez une photo qui est en fait le mausolée de Mustafa Kemal. C'est où il a été enterré. Et donc, faut savoir qu'en Turquie, il voue quand même un culte de la personnalité très fort à Mustafa Kemal. Donc, par exemple, nos hôtes ont des petits porte-clés avec la signature de Mustafa Kemal, où on trouve beaucoup d'autocollants avec la signature d'Atatürk, comme les voitures, comme ont les Bretons avec Alès Braise.
C'est une Bretonne qui parle.
Et donc, c'est vrai que ce personnage est très, très, très présent dans cette ville. Il y a aussi la ferme Atatürk avec voilà, tous les produits. C'était une ferme expérimentale bio où donc on peut retrouver tous les produits Atatürk.
Alors, les Bali qui nous accueillent ne portent pas trop dans leur cœur leur président, qu'ils qualifient d'espèce de sultan. Notamment parce qu'il vient de faire construire, quand on arrive, depuis quelques temps déjà, un immense palais sur la ferme expérimentale d'Atatürk, qu'il a notamment fait stopper la production viticole de la ferme expérimentale d'Atatürk. Ça fait depuis plusieurs années que Erdogan essaie d'éroder comme ça l'héritage kémalien, surtout en ce qui concerne la laïcité à la Turque. Laïcité qui consistait surtout à un contrôle de la religion par l'État. Donc c'était l'État qui gérait le culte, et le culte n'était plus une force politique, mais juste une application du pouvoir politique.
On va rester 5 jours de plus. On va rencontrer 2 autres familles. Et là, pour une fois, on va trouver le site du couchsurfing plutôt bien, puisque une fois qu'on a rencontré donc les Bali, qui étaient des parents d'élèves de la petite Aymila qui était dans l'école partenaire. On a eu la chance de pouvoir continuer à découvrir des familles turques grâce à ce site internet. Et du coup, on découvre une petite famille plutôt assez occidentale. Donc ça nous change un petit peu. Et puis après, on va passer aussi 2 journées avec un ingénieur, donc Mehmet, qui est très, 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 très critique envers la Turquie et le régime qui est mené par l'AKP, donc le parti du Premier ministre, dont je ne me souviens plus.
Davutoğlu.
Voilà, Davutoğlu. Donc on va quand même finir par quitter Ankara et on va se diriger vers la côte. Ça y est, on a été le plus à l'est possible de notre voyage après 7 mois et il faut rentrer. Sauf qu'on n'a pas encore complètement rempli nos objectifs musicaux et on se dirige vers Konya parce qu'on pense pouvoir rencontrer des Alevis et peut-être des danseurs et des Mevlevis, voilà.
Donc après la capitale Ankara, qui était la capitale administrative, la capitale militaire et une grande métropole universitaire, nous arrivons à Konya, qui est plutôt la capitale religieuse du pays et qui est un peu le symbole de la ville la plus conservatrice. Donc on y va avec comme idée d'essayer de participer à une cérémonie soufie des Mevlevis, donc ce qu'on appelle en France les derviches tourneurs. Parce que c'était le centre religieux des derviches tourneurs. Mais en fait, malheureusement, les derviches tourneurs n'officient plus en tant que tels depuis l'instauration de la République turque, puisque Kemal avait interdit tous les mouvements soufis dans la Turquie. Les mouvements soufis avaient un poids politique vachement important durant l'Empire ottoman. Donc maintenant, en fait, ce sont surtout des spectacles, des shows touristiques auxquels participent beaucoup les Turcs, qui sont très friands de ça. Et donc, on ne va pas arriver à rencontrer la véritable pratique Mevlevi. On est accueilli à Konya par une famille dont le mari s'appelle Ibrahim, et qui est docteur et qui est quelqu'un de très pratiquant aussi. C'est quelqu'un qui est plutôt un conservateur et qui ne va pas arrêter de nous parler de son amour pour son président et de la nécessité pour la Turquie d'avoir un président qui soit un homme fort, qui puisse tenir les Turcs et un peu relever le niveau du pays.
C'est vrai que là, on a une version complètement différente de la famille avec qui on logeait à Ankara, avec des points de vue complètement différents. Et ça nous montre bien cette grande différence qu'il y a entre une partie de la population turque qui est complètement anti-Erdogan et l'autre moitié de la population turque qui l'encense, qui l'adore. Et c'était aussi super intéressant dans ce sens-là. On n'était vraiment pas toujours d'accord avec Ibrahim et avec ce qu'il pouvait nous dire. Mais c'était intéressant de voir comment ces gens pensaient, pourquoi ils pensaient comme ça. Voilà.
Ce qui est assez étonnant, c'est que Ibrahim est un fervent adepte d'Erdogan. Bon, surtout peut-être pour la figure charismatique et ce qu'il peut représenter aussi dans son pays, alors que le frère de sa femme a lui-même été emprisonné pour l'avoir défié.
Voilà, effectivement, si Ibrahim était un fervent admirateur d'Erdogan, ce n'était pas du tout le cas de sa femme, ni de tout le reste de la famille de sa femme, puisqu'effectivement son frère était un haut gradé de l'armée de l'air turque. Et en fait, l'armée en Turquie de tout temps jouait un pouvoir politique très important. Ce sont les militaires qui ont véritablement créé la République de Turquie. Et donc à un moment donné où Erdogan a commencé à prendre trop d'importance dans le paysage politique, l'armée a essayé de lui faire face et de le destituer. Et en fait, ça a complètement échoué. Et donc il a réussi à en faire emprisonner tous les hauts dignitaires militaires, puis à les destituer. Pour après mettre en poste des gens qui étaient acquis à sa cause.
Vous le sentez beaucoup ça, en période de campagne électorale, les gens parlent beaucoup d'Erdogan, de cette peut-être dérive autoritaire aussi. Est-ce que les gens craignent quelque chose finalement, comment est-ce que vous ressentez ce climat? Est-ce qu'il est particulièrement présent ou finalement est-ce que c'est plus dans le domaine privé que vous allez en entendre parler?
Alors la campagne elle est présente à tout moment dans la rue. Puisqu'il y a des banderoles à l'effigie des différents partis politiques de partout. C'est vrai que celui de l'AK Party, comme ils disent pour l'AKP, est beaucoup plus représenté que les autres. Et d'une manière générale, le nom d'Erdogan est absolument partout aussi dans l'espace public. Il y a des portraits de lui, il y a des remerciements pour sa politique, pour l'instauration de telle ou telle institution, etc.
Quelle figure est-ce qu'il revêt finalement à Erdogan? C'est une société aussi assez patriarcale, la Turquie. Est-ce que cette figure finalement d'homme militaire fort, est-ce que c'est... Enfin, quelle image est-ce que les gens...
Eh ben, on a pu voir que les gens qui étaient plutôt issus des classes sociales élevées, et les intellectuels, les universitaires, ils se méfiaient complètement de ça et de la dérive liberticide d'Erdogan. Par contre, on nous a dit que effectivement, le pouvoir d'Erdogan résidait surtout dans un électorat qui lui était acquis et qui était celui plus rural de l'Anatolie, en fait, et qui était plus sensible à ces questions de religion et de côté traditionnel à préserver.
Okay. Donc passons Konya et vous vous dirigez ensuite vers Izmir.
C'est ça. Alors tout de suite pour commencer Izmir, une petite musique.
Contraste avec le débat qu'on avait avant et avec la ville de Konya qui est donc capitale religieuse comme vous l'aviez appelé. Là on est à Izmir.
Oui, on est à Izmir et c'est vrai que c'est tout le contraire de Konya, c'est beaucoup plus décontracté, beaucoup plus vivant, c'est très méditerranéen. Et donc à Izmir on est accueilli par une petite famille que Gitanjali avait contactée via le site Couchsurfer aussi. Et on leur avait dit notre objectif dans ce voyage. Et dès le soir où on arrive, le mari, Ake, nous emmène dans le bazar nocturne d'Izmir pour nous faire écouter un concert d'un de ses amis qui joue. Finalement, on ne peut pas en tirer grand-chose parce que le son n'est pas terrible, qu'il n'y a aucune lumière, donc on ne peut pas trop prendre de photos. Donc on finit rapidement par s'en aller. Et puis au détour d'une rue, on entend de la musique et on est attiré irrésistiblement. Et là, dans un bar, il y a une ambiance survoltée, et donc il y a ce chanteur-là, accompagné d'un joueur de bendir, qui est un tambour, qui joue de manière passablement virtuose. Et on y reste très peu de temps, parce que Ake ne veut pas du tout y rester, et il nous presse pour partir. Alors le lendemain, on lui demande, et il nous explique, et il nous dit « Mais j'ai eu peur d'entendre cette musique, je ne comprends pas ce qu'elle faisait là ». Alors il nous donne encore plus d'explications, il nous dit « Je suis kurde » et ça c'est une musique typiquement kurde et j'ai jamais entendu une chose pareille à Izmir. Et il nous explique que c'est le chant d'Engbej. Il nous dit que c'est un chant vraiment particulier de la culture kurde et que par exemple sa mère, c'est un chant avec une charge émotionnelle très forte et sa mère en avait chanté spontanément quand son père à lui était mort. Et que c'était un chant qui donnait des informations. La mère chantait de cette manière-ci. Elle disait « Mon mari est mort, il avait tel âge, il est mort dans un accident de voiture, il laisse sa veuve et ses trois enfants qui ont tel âge, il s'appelle ci et ça. » Et donc voilà. Après, nous, on se met en tête de retrouver ce chanteur-là. Donc on retourne dans le bar et puis on essaie de rentrer en contact avec lui. Et on finit par savoir où il va être tel jour à telle heure. Et on le rencontre. Et bon, lui, il ne parle pas du tout anglais, donc on ne peut pas avoir d'explication de sa part, mais une des personnes qui l'accompagne nous explique ce qu'est le chant d'Engbej. Et en fait, le dengbesh, c'est une, comment dire ?
Le dengbesh, c'est une personne, c'est aussi une position sociale. C'est en fait les bardes des villages kurdes qui vivaient en petites communautés. Et à chaque fois, il y avait un barde, un dengbesh par village, qui en fait était la mémoire vivante du village. Ils n'avaient pas d'archives, ils n'écrivaient pas. Par contre,
la culture kurde est une culture orale, uniquement au début.
Et du coup, le dengbesh chantait et racontait autant la vie de tous les jours, les mariages, les décès, le beau temps, et autant que la mémoire des guerres, la mémoire historique des villages. Et donc, avait une position importante, avait une position vraiment très importante, et conseillait, était là aussi pour conseiller le chef du village. Et en fait, ce jeune homme qu'on rencontre, c'est pas un dengbesh, mais son père était un dengbesh, et donc il a appris le chant dengbesh en vivant dans les communautés kurdes. Et là, en fait, ce n'était pas du tout un concert organisé. On a eu vraiment, vraiment beaucoup de chance. C'est qu'il disait que parfois, quand ils se retrouvaient entre Kurdes et qu'il y avait une bonne ambiance et qu'ils avaient envie d'exprimer des choses, ils se mettaient spontanément à chanter. Et donc voilà, il s'est mis spontanément à chanter avec son ami qui avait un bendir et on fait ce petit concert improvisé. Donc vraiment une rencontre tout à fait intéressante. On passe 5-6 jours à Izmir, vraiment très agréable, et notamment avec Ake, qui est notre hôte et qui est un joueur de ballama, et pas le baglama. Le baglama, c'était le petit instrument des rébettes, et le ballama, c'est le saz que vous voyez sur la photo. Donc c'est un joueur de ballama et il nous fait rencontrer un fabricant de ballama. On vous fait écouter tout de suite Ake.
Benim zülfü siyahım, bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Göklere erişti feryadım ahım, bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama.
Écoutions Ake nous jouer du ballama. Et le ballama, donc, c'est un instrument qui est un instrument sacré au départ et qui est celui de la communauté Alevi, qui est une communauté religieuse associée au chiisme. Alors les Alevi, ils ne vont pas à la mosquée, mais ils pratiquent leur rituel religieux en famille, dans leur maison, en musique et en danse. D'où l'importance du ballama, qui en fait est l'instrument qui leur permet d'entrer en contact avec Dieu. Les Alevis ont été de tout temps brimés en Turquie. C'est vraiment une communauté qui a été beaucoup réprimée. il y a peu, je crois dans les années 90 encore, il y a eu un grand massacre. Je ne sais plus où, en Anatolie, il y avait un congrès de personnalités intellectuelles importantes de ce mouvement-là qui s'était retrouvé et une populace les a lynchés, en fait. Donc c'est vrai qu'ils ont une histoire assez particulière. Et de ce fait, le balama était un instrument qu'on voyait très peu, nous a dit Hake, en Turquie, dans la rue. C'était impossible d'en voir parce que c'était synonyme d'alévisme. Jusque dans les années 80, alors, il nous disait qu'on n'en voyait pas beaucoup. C'est aussi un instrument qui est plutôt synonyme d'un engagement politique plutôt à gauche. Et enfin, c'est l'instrument des bardes anatoliens qui s'appellent les Ashuk, qui sont des bardes itinérants au départ, des amoureux de la musique, et qui donc voyagent avec leur balama et qui vont dans les villages et chantent des épopées comme ça.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet instrument, du coup, le balama ? C'est un instrument à cordes, du coup ?
Oui, c'est un luth à manches longs.
Un luth à manches longs.
Qui a une caisse de résonance en forme de poire, donc on appelle ça un instrument piriforme. Il a trois doubles cordes. La table d'harmonie n'est pas percée, comme on le voit, mais la caisse de résonance est percée au niveau de ce qui retient les cordes, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà ce que je pourrais en dire.
Okay, très bien. Donc le balama, là, c'est Aki, qui a une petite chanson qui était aussi joueur et fabricant de balama, c'est ça ?
Il est simplement joueur.
Oui. Simplement joueur.
Ouais. Et du coup, juste avant, on avait vu quelques photos du fabricant. Donc en fait, Hake nous emmène chez le fabricant en disant qu'il voudrait avoir un nouveau balama. Et en fait, voilà, c'est une manière pour nous d'acheter un balama à un fabricant pour le ramener pour l'exposition qu'on est en train de finaliser. Du coup, on passe donc des jours vraiment très sympathiques avec cette famille qui est vraiment petit soin pour nous faire découvrir la musique et l'ambiance de la vie à Izmir, qui, comme le disait Lucas tout à l'heure, est complètement différent du reste de la Turquie. Et au détour d'un bazar, on va monter alors, dans le vieux bazar d'Izmir. Et à l'étage, on découvre une petite
école de musique.
Une petite école de musique où on entend voilà un peu de musique. Donc on rentre et on fait une super rencontre avec le musicien que vous pouvez voir, qui va nous interpréter un petit peu de
Ney.
Thank you. Je voulais vous poser une petite question. On voit que c'est quand même des instruments qui ont l'air de venir des musiques traditionnelles, donc des instruments peut-être un petit peu anciens qui ont une histoire. Et je me posais la question, est-ce que leur pratique est toujours actuelle? Est-ce qu'il y a des jeunes qui utilisent ces instruments? Est-ce que les écoles de musique sont pleines? Voilà.
Alors concernant le balama, oui, c'est une musique qui est, enfin, c'est un instrument qui est beaucoup pratiqué par les jeunes, qui est utilisé aussi, qui est maintenant aussi amplifié et qui est utilisé dans des styles un peu plus de fusion avec le rock, par exemple. Et c'est un instrument mais qui est beaucoup apprécié des jeunes qui sont plutôt ancrés politiquement à gauche. Parce que c'est un symbole, du coup, politique. Pour le ney, la flûte qu'on a entendue précédemment, on est passé deux fois dans des écoles de ney et à chaque fois, on a vu beaucoup de gens qui passaient pour acheter des instruments et de tout âge, ou alors des jeunes qui voulaient venir s'inscrire pour donc prendre des cours de musique. Donc c'est aussi un instrument qui est, semble-t-il, assez pratiqué par les jeunes.
Et qui est un instrument en plus assez phare du coup, dans la musique traditionnelle turque, le ney.
Le ney, oui. Alors effectivement, c'est comme le balama, c'est aussi un instrument qui au départ est un instrument sacré puisque c'est l'instrument des derviches tourneurs, des Mevlevi, des soufis Mevlevi. Les soufis, c'est les mystiques de l'islam. Ils pensent qu'ils peuvent atteindre un contact avec Dieu par des pratiques particulières qui sont en fait la danse, qu'ils pratiquent en tournant, en tournant, en tournant pendant des heures sur eux-mêmes, et par la musique et la poésie. Et donc, la base de cette musique qui va ensuite servir pour la danse, c'est cet instrument, le ney, la flûte, qui est donc une flûte en roseau, qui se tient de manière oblique et qui est, semble-t-il, très très difficile à maîtriser. Il faut des années de pratique. On nous a dit que pour arriver à un bon son, il fallait 8 ans d'entraînement pour un son correct. 8 ans d'entraînement de ney.
Rien que ça.
C'est une esthétique aussi musicale assez particulière puisqu'on entend beaucoup le souffle de la flûte. Et c'est comme ça qu'il faut en jouer. Il ne faut pas avoir un son trop pur, mais il faut vraiment entendre le souffle. D'instrument sacré, il est passé après du côté profane et c'est devenu l'instrument phare de la musique classique ottomane qui est beaucoup pratiquée aussi aujourd'hui. Mais par contre, il n'y a plus de création dans ce domaine-là. C'est vraiment une musique qu'on considère qui s'est arrêtée de vivre et de se créer avec la fin de l'Empire ottoman.
Merci.
À ce moment-là, c'est la veille de notre départ de Turquie. Donc ça y est, notre voyage est presque terminé. On va finalement prendre le bateau, nos derniers bateaux, pour rejoindre la Grèce depuis Chechmé, qui est la pointe d'Izmir. On passe juste une nuit en Grèce et puis on reprend un bateau de Grèce jusqu'à Brindisi, donc les Pouilles tout en bas de l'Italie, tout au sud de l'Italie, et on va reprendre 5 jours pour remonter l'Italie et arriver en France après 200 jours de voyage et des milliers de rencontres et de musique et de photos prises. Donc nous voilà au terme de ces émissions.
Après 7 mois de voyage, donc.
C'est ça.
Comment vous vivez votre retour en France après 7 mois de rencontres aussi riches, que ce soit sur le plan humain et musical?
C'est une question compliquée. Ça fait bizarre de revenir, de réatterrir dans quelque chose qu'on retrouve un peu figé, en fait, parce qu'on a l'impression que ça n'a pas bougé depuis qu'on est parti. Alors que nous, on a emmagasiné des choses en continu pendant 7 mois et on se sent un peu perturbé par rapport à ça.
Surtout qu'à l'arrivée, du coup, vous continuez donc avec l'association Mare Nostrum à parler de ce voyage, quoi, à rencontrer les écoles. Ça se fait tout de suite ou vous avez un petit temps de repos?
Pas de repos, pas de répit. On attaque presque, presque instantanément nos visites dans les écoles. Donc on avait 14 classes en France, entre la Drôme, l'Hérault et la Bretagne, l'Ille-et-Vilaine. Et donc voilà, on est repassé dans chaque classe pour parler de notre voyage et faire écouter les musiques qu'on avait rencontrées, leur permettre aussi d'essayer les instruments qu'on avait récoltés sur la route.
Et aussi pour voir ce qu'ils avaient fait pendant les 7 mois de voyage, puisque eux aussi avaient produit des choses, des articles où ils avaient appris des chansons avec leurs correspondants, ou même une de nos plus grandes surprises et plus agréables dans l'Hérault, une des classes partenaires qui avait été vraiment très investie, avait créé la pièce Mare Nostrum, où on pouvait voir Luca et Guitancelli à bord d'un van rouge en carton. Donc c'était voilà, super de pouvoir voir aussi l'impact que ça avait pu avoir pour peut-être pas tous les partenaires avec qui on avait engagé des choses, puisque bon, les investissements ne sont pas toujours égaux, mais pour voir que pour certains, ça avait vraiment, vraiment fonctionné, vraiment apporté des choses. Et donc ça, c'était vraiment une super, super récompense pour nous. Voilà, on va essayer maintenant de continuer de travailler dans cette association, continuer à promouvoir l'échange, puisque c'était bien ça l'objectif entre nous ici et puis ailleurs, et puis entre les gens d'ailleurs aussi entre eux. Déjà, il y a l'exposition Mare Nostrum qui finit tout juste d'être construite et qui va prendre place donc un peu loin d'ici pour l'instant en Bretagne pendant 2 mois. On fait venir un musicien marocain pour l'occasion qui fera un petit concert en Bretagne, mais également à Vinsobres. Donc le samedi 7 mai à 19h, vous êtes tous invités pour le concert gratuit de Younes Lajgar, autour aussi après d'un repas qu'on partagera tous ensemble autour de la vie de cet artiste qui est très 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 intéressante. Et puis on va essayer de continuer nos actions dans le but de toujours plus d'échanges et de communication.
Donc revenu, mais encore beaucoup de projets pour l'association Mare Nostrum à venir.
Ça.
Merci beaucoup en tout cas pour nous avoir fait voyager durant ces quatre émissions.
Merci beaucoup à Ensemble Ici et Radio Livre qui nous ont aidés bénévolement pendant ces 4 émissions et ont permis ces échanges. Et merci aux gens d'être venus. Et si vous avez des questions aussi, bien sûr, ou vous avez envie de parler, voilà.
Nous remercions aussi la médiathèque départementale de la Drôme Alliance pour leur accueil aujourd'hui.
Merci beaucoup, Mare Nostrum.
Merci. Merci.
Ensemble, ici.
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 Radio Livre.
Radio Livre.
Radio Livre.
La radio des initiatives.